Bonjour, vous écoutez Paroles protestantes sur RCF Anjou. Ce matin, je vous propose un témoignage un peu hors du commun, en compagnie de Aude, qui a notamment été au front de guerre à Mossoul en Irak. Elle a bien voulu accepter de partager son parcours avec nous, un parcours assez insolite, vous le verrez. Nous sommes ensemble durant 25 minutes.
Paroles protestantes sur RCF Anjou.
Aude, bonjour.
Bonjour.
Une fois n'est pas coutume, dans cette émission où le vouvoiement est en principe de mise, étant donné que je suis ton pasteur lorsque tu es à Angers, je pense que les auditeurs comprendront ma familiarité avec toi. Avant d'aller plus loin dans le dialogue, dans le partage, j'aimerais que les auditeurs puissent comprendre ton ministère, en Irak en tout cas, et ce qui s'est passé. Donc je propose 45 secondes du premier reportage qui est passé sur France 2 et qui t'était consacré. Ce reportage s'intitule « Une Française sous les balles ». Nous écoutons.
Salam alaikum, Abdallah Salama. Salam alaikum, Abdallah Salama.
Dans le fracas des balles, Aude vient en aide aux milliers d'habitants qui fuient les combats entre djihadistes et armées irakiennes. Quand nous la rencontrons l'été dernier, cette Française de 39 ans est à Mossoul, la capitale de l'État islamique en Irak, est sur le point de tomber.
À entendre, c'est déjà impressionnant. À voir les images, ça l'est plus encore. Peut-être qu'avant d'aller plus loin sur ce que tu as vécu en Irak, est-ce que tu pourrais nous dire ton parcours de vie ?
Alors, tout à fait. Alors, moi, je suis né dans un petit village du Limousin, à une cinquantaine de kilomètres de Limoges, pour ceux qui connaissent, ce que les journalistes appellent la France profonde. Je suis née dans une famille de tradition catholique où il y a quand même une forte tradition, on va dire. J'ai des oncles prêtres, des cousines consacrées, un oncle diacre, donc c'est une tradition très forte. J'ai fait le catéchisme, mais pour moi il n'y avait pas de foi, quoi. C'était juste un rituel qu'on fait. Enfin, c'est une culture. J'étais footballeuse. C'est ce qui m'a permis d'aller étudier aux États-Unis. J'ai obtenu une bourse d'études pour les États-Unis. Et c'est là-bas que j'ai rencontré le Seigneur.
En étant footballeuse.
Voilà, alors j'aimais dire que je pensais que j'allais aux États-Unis pour le foot, mais maintenant je peux dire que le Seigneur a utilisé le foot pour m'amener à lui.
C'est donc là-bas, aux États-Unis, que tu as rencontré Jésus, que tu as
tout
eu la
fait,
foi,
ouais.
une révélation. Comment est-ce qu'on rencontre Jésus et pourquoi ce ne serait pas possible en France ?
Alors, pas possible, chacun son cheminement. Le Seigneur connaît chacun d'entre nous, il sait où et pourquoi il veut nous appeler. Moi, ça s'est fait aux États-Unis. Donc, comme je te disais, j'étais de famille catholique, mais je ne croyais pas. Je suis partie aux États-Unis. La capitaine de mon équipe était une jeune convertie. Ça faisait 6 mois qu'elle avait rencontré le Seigneur. Et on est devenus très vite très, très proches. Et elle n'arrêtait pas de me parler de Jésus. Donc, j'ai acheté ma première Bible pour lui montrer que c'était des balivernes. J'étais aux États-Unis le 11 septembre 2001, des attentats. Je pense que tous nos auditeurs s'en souviennent, au moins ceux qui sont en âge de s'en souvenir. Ce jour-là, j'ai appelé mes parents pour leur dire « Ne me parlez plus jamais de Dieu. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne suis pas dans un avion, vous inquiétez pas, mais ne me parlez plus de Dieu. » Et puis, printemps 2002, alors que je finis une séance de sprint pour la préparation physique de mon poste, en tant que gardienne de but dans l'équipe de l'université, j'ai une voix qui revient dans la tête 3 fois qui dit « Ne t'inquiète pas, maintenant je m'occupe de tout. » Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur m'a parlé en anglais. « Do not worry, now I'm taking care of everything. » Et 3 fois très clairement. À partir de ce moment-là, je savais qu'il y avait un Dieu. Je savais que c'était le Dieu de la Bible. La parole dit que la foi, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir. C'est vraiment une grâce de Dieu. Donc j'ai commencé à aller à l'église. Je ne voulais pas retourner dans une église catholique, de par ce que j'avais vu moi plus jeune. Donc je suis allée là où j'avais des amis. J'ai commencé à lire la parole, à aller au groupe de prière, groupe d'études bibliques, et j'ai fait ça à peu près jusqu'en 2004, donc à peu près 2 ans, où je pensais être chrétienne, du fait que je faisais toutes ces activités. Et puis il a fallu un autre événement pour une grosse déception. J'espérais rester aux États-Unis et c'est passé quelque chose qui a bloqué le fait que je puisse rester là-bas. Et là, cette même amie que j'avais rencontrée, qui la première m'a introduit à la Bible, en fait, au Seigneur, m'a dit « Très bien, maintenant tu as du temps pour prier ». Et ce jour-là, je l'ai pris au mot, je me suis assise et dit « Écoute Seigneur, ta parole dit que tu as une mission pour chacun d'entre nous, prends ma vie, elle est à toi ». Jésus dit à Nicodème qu'il faut le naître de nouveau pour voir le royaume des cieux. Ce jour-là, je peux dire que j'ai vécu cette renaissance. Et tout était différent.
Dans ce changement, qu'est-ce que cette rencontre avec le Christ a produit chez toi, d'une manière concrète ou plus spirituelle ?
Tout, ça a été radical. Déjà, il m'a ouvert les yeux au monde spirituel. Et je me suis rendu compte que le monde spirituel était beaucoup plus réel que le monde que nous voyons avec nos yeux. Donc ça, c'était un changement qui m'a énormément frappé. Et puis tout, ta vie, tes objectifs, la parole devient beaucoup bien vivante, la Bible, alors que je la lisais déjà, mais là, tout s'éclaire, tout devient vivant. Il y a tellement de changements, quoi. Les objectifs de ta vie, là. Une fois que tu as rencontré le Seigneur, tu n'as qu'une envie, c'est de le suivre et le servir. Le reste devient vraiment futile. Donc, et je suis rentrée en France, d'ailleurs, par obéissance, alors que j'en avais pas forcément envie.
Et ça veut dire quoi, obéissance, alors pour toi ?
C'est-à-dire que cette obéissance, ça veut dire faire ce que le Seigneur te demande de faire, même si ça va à l'encontre de toi, ce que tu voudrais faire. Et pour moi, ça a été vraiment un acte d'obéissance, hein, parce que je n'avais pas forcément envie de rentrer en France. J'avais enfin trouvé un équilibre aux États-Unis, j'avais une famille chrétienne, j'étais bien. Mais je sentais que le Seigneur me dit « je veux que tu rentres en France », donc je suis rentrée.
Voilà. Alors peut-être qu'une des questions que les auditeurs vont se poser, c'est... comment est-ce qu'on entend Dieu ? Comment est-ce qu'on sait que c'est lui qui nous... Est-ce que tu as entendu des voix ? Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est autre chose ?
Alors pour moi, de toute façon, je pense que Dieu parle à chacun de façon unique. Il n'y a pas une règle. Pour moi, déjà, ce n'est pas un rêve. J'étais tout à fait éveillée. Je rentrais vraiment d'un entraînement. Et cette phrase est revenue trois fois, mais très clairement. « Do not worry now, I'm taking care of everything. » Et d'une clarté, il n'y avait pas de « peut-être » ou... Et je savais que c'était le Dieu de la Bible. Encore une fois, c'était... Tu le sais. Intérieurement, moi, je le savais.
Et est-ce que c'est la même, on va dire, la même voix qui te dit « maintenant, il faut rentrer en France » ?
Non, c'est différent. C'est la seule fois où le Seigneur m'a parlé comme ça. Après, dans ma vie avec lui, c'est plutôt des voix intérieures, c'est plutôt par la prière. Tu sais que tu choisis de le faire ou pas le faire, mais tu sais que.
Ça devient, si je comprends bien, une évidence.
Voilà, c'est ça. Après, forcément, on doute. Parce qu'il y a le combat entre la chair et l'esprit aussi, hein, donc... Mais à force de prière, on dit non, c'est ça qu'il veut. Et d'ailleurs, une chose que j'ai moi compris dans mon cheminement avec le Seigneur, quand on prend la décision en adéquation avec ce qu'il veut, il y a une paix incroyable. Des fois, on est tourmenté en attendant de prendre cette décision. On est entre deux, on hésite, est-ce que c'est Seigneur, pas Seigneur, est-ce que c'est moi ? Et quand on prend cette décision, quand on prend la décision qu'il veut qu'on prenne en fait, il y a cette paix incroyable qui nous envahit et là on sait que...
Alors comment de footballeuse on arrive sur le front d'Irak en guerre et avec quelle formation ?
Ouais, alors là c'est une longue histoire aussi parce que donc je rencontre le Seigneur en 2004, je rentre en France comme je dis et en fait je suis partie à l'étranger qu'en 2016. Donc ça a quand même été 12 ans de formation à l'école de Dieu. Quand je suis rentrée en France, la première chose que j'ai fait c'est partager l'évangile. Pour moi, c'était clair qu'il fallait que les Français entendent que Jésus est vivant, que la Bible n'est pas une invention des hommes, que la Bible est la parole de Dieu, qu'il y a un enfer et qu'il y a un paradis. Et donc j'ai enchaîné plein de petits boulots. J'ai fait de la construction, j'ai fait de la peinture, j'ai fait plein de choses. Et puis un jour, je dis au Seigneur quand même, il me faudrait un métier entre les mains comme Paul faisait des tentes. Il me faudrait un métier qui me permette de continuer à te chercher, continuer à apprendre et en même temps vivre, subvenir à mes besoins. Un verset que Dieu a mis très tôt dans mon cœur après que j'ai rencontré, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord son royaume et sa justice et il pourvoira tous vos besoins. Oui. Donc ça a toujours été clair. Même si je me considérais missionnaire déjà en France, missionnaire non officiel, parce que je suis pas... je voulais pas tomber dans... Si je peux travailler, je travaille. Oui. Je veux subvenir à mes besoins autant que possible. Et donc j'ai tout fait et le Seigneur m'a orienté vers les chevaux. Je me rappelle un jour, je suis là en prière à pleurer, Seigneur, montre-moi ce que tu veux. Et je vois un cheval galoper. Et ma réponse, c'est vrai, j'aime les chevaux. Je me suis arrêtée là. Et j'aimais les chevaux. Mais j'avais monté très peu dans ma vie. Enfant, j'avais fait du poney, mais ça s'arrêtait là. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans les écuries de course, à apprendre à monter à cheval. J'aime dire que j'ai appris à monter à cheval sur des chevaux de course. C'est comme apprendre à conduire une voiture en conduisant une Formule 1. Ça m'a valu beaucoup d'accidents, beaucoup de chutes, beaucoup d'humiliations. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. J'arrivais enfin à un niveau où je me disais, ça y est, je suis cavalière d'entraînement et je pouvais sauter les chevaux, etc. Et là, j'ai fait 2 accidents coup sur coup qui m'ont valu en tout presque 2 ans d'arrêt et de rééducation. Et c'est pendant ce temps qu'une amie américaine, une sœur en Christ américaine, m'a invitée à faire une formation de premier secours en zone hostile. C'était en plus dans la ville où j'avais rencontré le Seigneur avec tous mes amis, ce que j'ai fait. Et il y avait en parallèle à cette formation, une formation de sécurité que j'ai également fait. Et là, c'était une révélation. C'était une confirmation de quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur que j'avais toujours rejeté, pensant que c'était ma chair et pas sa volonté. C'est-à-dire que très peu de temps après avoir rencontré le Seigneur, je me voyais sur un champ de bataille tenir la tête d'un soldat mourant et l'accompagner dans ses derniers soupirs, pour être honnête. Et donc, c'est une confirmation. Je suis rentrée en Europe, j'ai fait des formations de bodyguard, donc protection rapprochée en milieu hostile, et infirmière de combat. Les portes ne sont pas ouvertes pendant un an, et un jour, je dis au Seigneur, écoute, si c'est vraiment de toi, je vais partir dans une zone en conflit. Je savais que c'était plutôt Moyen-Orient. Je suis partie en Irak avec un groupe qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient, un très bon groupe, j'en profite d'ailleurs. J'ai passé 15 jours avec eux et j'ai rencontré un autre groupe qui faisait vraiment du secours en première ligne et c'est vraiment ce que j'avais à cœur. Donc je suis partie avec cet autre groupe.
Aude, on va en poursuivre notre émission. On va tout d'abord écouter un chant qui s'intitule, et ça tombe bien, « Où tu vas, j'irai, parle et je dirai, prie et je prierai ». C'est un beau programme, un très beau chant d'engagement. Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants.
Où tu vas, j'irai, parler, je dirai, prier, je prierai, prier, je prierai. Où tu vas, j'irai, parler, je dirai, prier, je prierai. Et je prierai. Jésus faisait seulement ce que tu faisais. Il disait simplement ce que tu disais. Il allait uniquement où tu le guidais. Il suivait ton cœur. Il suivait ton esprit. Alors comment pourrais-je marcher sans toi? Quand Jésus te soumettait chacun de ses pas, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Car toi seul es digne. Tu es toujours bon, chacun de ses pas. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, car toi seul es digne, tu es toujours bon, tu es toujours bon. Oh, oui.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Suite de notre émission Parole protestante sur RCF Anjou, en compagnie de Aude, qui est rentrée il y a quelques mois de mission en Irak, et qui nous partage son parcours de vie. Aude, nous avons commencé à entendre comment tu es arrivée en Irak pour une mission humanitaire de 2 mois, c'était en tout cas le projet. Comment est-ce que l'on part dans un lieu, et surtout dans une situation si compliquée, puisque tu y as été en temps de guerre?
Oui, alors, pour être honnête, quand je partais avec SOS Chrétien d'Orient, pour moi, je mettais Dieu face à « Seigneur, tu m'as fait faire toutes ces formations. Si l'appel est vraiment de toi, tu vas ouvrir une porte. Si ce n'est pas de toi, tu vas fermer la porte. » Quand je suis partie avec SOS Chrétien d'Orient, on allait à Erbil. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, Erbil, c'était la zone safe. C'était là où tous les réfugiés arrivaient, d'ailleurs. Ensuite, une fois sur place, quand il m'a mis en contact avec ce groupe que j'essayais, moi, de contacter depuis un an, quand même, un an et demi, oui, là, il y a un vrai choix d'aller sur la ligne de front avec eux. Mais pour moi, enfin, c'est pour chacun d'entre nous. Quand on est dans l'appel, ça se fait naturellement. Il n'y a pas de réflexion sur on obéit, on avance.
Toujours avec ces convictions intérieures qui te conduisent, qui te guident comme étant l'appel
fait,
du Seigneur.
Tout à fait, oui. Ouais.
Et comment que ça se passe alors, la vie sur le front de guerre? Parce que à regarder les reportages, tu es la seule fille. La seule étrangère d'ailleurs. Il y a peu, tu es rentrée d'Irak alors que tu étais la seule fille sur la base militaire. 9000 soldats, je crois, si je ne me trompe pas. Tu n'as pas peur, peur d'être violée peut-être ou d'être agressée ou...
Non, alors pour être honnête, le plus grand miracle, je dis, dans tout ça, dans toute cette histoire, c'est pas qu'une jeune fille qui n'a pas un cursus de militaire ou de policière se retrouve sur la ligne de front et n'ait pas peur. C'est pas ça. Pour moi, le plus grand miracle, c'est la façon dont les Irakiens, que ce soit les officiers et les soldats, m'ont adopté. Parce qu'il faut savoir que ce groupe que j'avais rejoint pour des divergences spirituelles, avec le leader spirituel, j'ai décidé de le quitter au bout de 5 mois. Et la raison pour laquelle je suis restée aussi longtemps avec eux, c'était parce que je voulais pas quitter la brigade. Mais à un moment, je ne pouvais plus rester parce que ce n'était pas possible d'être en désaccord avec moi-même. Donc j'ai quitté ce groupe et donc cette brigade, pensant que je ne les reverrais jamais plus. Et c'est quand même eux qui sont venus me rechercher. C'est quand même le général de la brigade qui est venu me rechercher et qui m'a demandé de finir avec eux. Donc à ce moment-là, oui, j'étais seule avec tous ces hommes. C'est ça le plus grand miracle. C'est les relations que Dieu et l'amour que Dieu m'a donné pour ces hommes, pour ces officiers. Je me suis vue pleurer pour des soldats qui sont morts, qui ont pris une balle dans la tête que je ne connaissais même pas. Il y a beaucoup d'entre nous, chrétiens, qui sont appelés pour les civils, les enfants, les femmes. Moi, mon appel, il est vraiment pour les hommes, les combattants. Quant à être violé ou pas, non, c'est incroyable. Ce sont des gens avec un respect énorme. Pour être honnête avec toi, j'étais plus en sécurité à dormir par terre avec 30 soldats qu'à prendre le métro de Paris.
Dans le deuxième reportage... qui est d'ailleurs passé dans l'émission Le Jour du Seigneur, sous le titre de l'appel. Il y a des situations vraiment très impressionnantes, en tout cas moi ça m'impressionne. Je repense à cette image où on te demande de fouiller à corps des femmes qui étaient susceptibles d'être des kamikazes. Tu n'as pas peur d'être explosé avec elles?
Alors honnêtement, non, comme je dis dans le reportage. C'est-à-dire que ce qui m'embêtait le plus d'ailleurs, c'est que j'avais l'impression de perdre mon temps. Puisque comme je dis dans le reportage, s'il y a une femme, ben on explose. Et s'il n'y en a pas, j'ai perdu mon temps parce qu'il y a des hommes ou des enfants ou des civils qui sont en train de mourir sur les combats. Non, parce que nous, en tant que chrétiens, on sait où on va. Si, comme je dis aux frères et aux sœurs, si nous, chrétiens, n'avons pas... Nous qui avons l'assurance du salut, nous qui savons que mourir physiquement, ce n'est que rentrer à la maison avec Dieu le Père. Si nous n'avons pas... si nous ne pouvons pas aller sur ces zones-là, qui va y aller?
Mais faut quand même avoir une certaine... force de conviction, qu'effectivement, si on meurt, on va avec le Seigneur.
Oui, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est une grâce de Dieu. La foi est une grâce de Dieu. Hein. Ça, je ne peux pas l'expliquer. Hein, mais je sais que, d'ailleurs, la parole nous le dit. Et puis, le Seigneur l'a toujours rendu très concret dans mon cœur. La mort n'est qu'un passage physique et on rentre à la maison. Hein. Et pour être honnête avec vous, avec toi et avec nos auditeurs, de temps en temps, le monde dans lequel on vit... C'est pas que je suis impatiente, mais bon, rentrer à la maison ne me déplairait pas. Hein.
C'est un peu comme l'apôtre Paul qui dit,
voilà.
Ce serait mieux si je partais, mais
exactement.
J'ai encore quelque chose à faire.
Finir. Voilà, tant que je n'ai pas accompli ce pourquoi Dieu le Père m'a appelé en Jésus-Christ, je suis là et je veux le faire joyeusement, même si c'est pas toujours simple. Hein. Mais le moment où j'ai fini, je veux pas faire de rab, hein. Je rentre.
J'ai vu aussi dans ce reportage que tu avais effectivement un amour, j'allais dire chrétien, mais un amour tout court pour ces soldats musulmans. Et j'ai beaucoup apprécié cet échange entre le gars qui conduisait une Jeep.
Capitaine Osama, oui.
Ah ouais, enfin, lui, il disait, mais nous ne voulons pas te perdre. Je trouve que c'est une super belle déclaration.
Ah ouais, c'est extraordinaire. Et puis en plus, il faut savoir que Capitaine Osama, c'est le premier ami que j'ai eu chez les Irakiens parce qu'il parle couramment anglais. Au début, je pensais même qu'il était américain. Il a un anglais parfait. Et c'est vrai que c'est ça qui est extraordinaire. Le général de ma brigade, je vais éviter de donner trop de noms quand même.
Non, il ne faut pas.
Le général de ma brigade me regardait comme une fille et moi comme un père. Je vais vous donner un exemple, et à nos éditeurs. Quand il m'a rappelé à venir avec sa brigade, donc il est venu me chercher. Donc là, j'étais vraiment seule avec sa brigade. La première nuit, le lendemain, je le trouve dormant sur le canapé devant ma porte. Et il me dit, je suis rentré tard et de toute façon, on départ à 6 heures pour mission... Et en fait, il m'a dit plus tard, c'est qu'il voulait marquer le territoire et dire à ses hommes, elle est sous ma protection, vous n'y touchez pas. Tous les hommes me connaissaient, il n'y aurait pas eu de souci. Mais c'était vraiment le père en lui qui parlait et qui disait, voilà, elle est là, elle est sous ma protection et personne n'y touche. Et ils m'ont toujours protégée, j'ai du mal à exprimer d'ailleurs cet amour. Parce que quand on parle d'amour pour ces hommes, chrétien, c'est un amour divin même.
Oui, bien sûr.
C'est ça qui est extraordinaire, c'est que très vite ça s'est fait pour moi. Ça a été, et au début, ça t'inonde tellement que tu as envie de te cacher. Parce que tu as peur que les gens pensent des choses. Mais c'est vraiment l'amour de Dieu pour des personnes peut être d'une force incroyable.
Et alors sur place, puisqu'on est... en plein pays musulman, est-ce que la prière, la lecture de la Bible, ça ne pose pas de problème ?
Ça pose absolument pas de problème, sachant qu'en plus, ces gens-là respectent énormément la prière, puisque même prient, c'est très important pour eux. Ils respectent Jésus, qui est dans leur Coran différent du vrai Jésus, mais pour eux, Jésus, ils l'aiment quand même. Même si ils n'ont pas, ce n'est pas le même Jésus que nous adorons. Donc il n'y a aucun problème. Également, ils posent beaucoup de questions. Alors ce n'est pas un pays où je vais arriver, tiens, non. Mais quand ils posaient des questions, je répondais. Et souvent, ils demandaient d'aller plus loin. Et il est arrivé, c'est pareil, il y a quand même eu pas mal de bibles de distribuer. Mais parce qu'elles ont été demandées.
Tu sors de prison à Angers, où tu as témoigné devant les détenus. Comment est-ce qu'ils ont réagi ?
Ben écoute, il y a eu plein de questions très intéressantes, non seulement avec les détenus et puis les accompagnants qui étaient là avec le pasteur qui m'a invité. Donc non, ça a vraiment été un échange passionnant.
Si tu avais quelques mots à dire en direction de nos auditeurs, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ?
Qu'il n'y a pas d'appel plus simple ou plus sain ou plus parfait que d'autres. Je veux dire, je ne suis pas spéciale, je ne fais que répondre à l'appel que Dieu a sur ma vie. Pour moi, il n'était pas difficile d'être au milieu de Mossoul avec les balles qui sifflaient ou les tanks qui tiraient parce que j'étais en paix, j'étais dans la volonté de Dieu. J'ai autant de respect pour une personne qui est appelée à intercéder pour la France, par exemple, parce que je connais la difficulté de cet appel en France. Donc pour moi, ces personnes-là ont mon plus grand respect. Tout chrétien qui accomplit la mission que Dieu a pour lui a mon plus grand respect.
Vous pouvez voir un des deux reportages consacrés à Aude sur le site internet de l'Église protestante baptiste d'Angers. Sous l'onglet « Nous connaître », vous avez un autre qui est intitulé « Action missionnaire ». Et vous trouverez donc le reportage qui s'intitule « L'appel » et qui a été diffusé dans l'émission « Le jour du Seigneur ». Réécoutez ce témoignage en podcast sur RCF Anjou sous la rubrique « Paroles protestantes et faites-le écouter à vos amis. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.